Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Premier sujet ce matin, bien sûr, l'attaque terroriste en banlieue de Moscou. Quels sont les derniers éléments? Tout d'abord, vous l'avez vu, 4 hommes qui ont été arrêtés, qui sont accusés d'avoir mené cette attaque contre ce centre de spectacle. 137 personnes au moins ont perdu la vie. On parle facilement de 180-200 blessés. Non seulement une attaque à l'arme automatique, mais aussi des cocktails Molotov qui ont été utilisés, bombes incendiaires. Il y a une partie de la structure qui s'est effondrée et on pense qu'il y a des gens qui sont malheureusement encore coincés, peut-être sous les décombres. Les 4 qui ont comparu, on a vu très clairement qu'ils avaient été tabassés. On les a arrêtés, dit-on, à environ 250 000 de Moscou. Et interrogatoire musclé, il y a des vidéos qui circulent et on les voit se faire brasser. Il y en a même un qui s'est fait couper un bout d'oreille et on a pris ce bout d'oreille et on lui a mis dans la bouche. C'est dégueulasse. Un est arrivé en chaise roulante, un avait un cathéter. On les voit là après avoir été, disons, torturés par les policiers russes impliqués dans l'affaire, par ceux qui mènent les interrogatoires. Bon, la question, bien sûr, qui est derrière cette attaque, qui rappelle, veut pas, ce qui s'est passé à Paris, au Bataclan, c'est pas le même contexte, mais une salle de spectacle qui a été visée, un complexe relativement nouveau. Ce matin, le président français, Emmanuel Macron, qui est en déplacement en France, confirme que le groupe de l'État islamique Khorasan a tenté à plusieurs reprises de s'en prendre à la France. Il dit « Cette branche de l'État islamique avait mené plusieurs tentatives en France. » Et il faut ajouter que il y a eu une alerte qui a été majorée dans les dernières heures. Donc, c'est l'espèce d'alerte ultime là qui craint une menace terroriste pour la France. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? C'est d'aller revoir tous ceux et celles qui sont fichés, qui représentent un danger potentiel. Et veut pas, on pense aux Jeux olympiques qui s'en viennent. Vous imaginez l'espèce de défi pour la sécurité. Donc, ce qu'on appelle le plan Vigipirate qui a été rehaussé en raison des menaces, a dit le président Macron. Et du côté de Poutine, qui évidemment a réagi en parlant de l'horreur et en pointant du doigt l'Ukraine, sans accuser formellement l'Ukraine, laisse planer le doute que l'Ukraine pourrait directement et indirectement avoir, aurait joué un rôle dans ce qui s'est passé. La plupart des experts disent que Poutine se retrouve dans une bizarre de situation parce que les services de renseignement, entre autres américains, avait sonné l'alarme il y a quelques jours en disant qu'une attaque du genre était en préparation. Et évidemment, ça avait coulé dans les médias et à ce moment-là, Poutine avait rejeté ça du revers de la main en disant « ça fait partie de la propagande américaine ». Jean-François Lépine, Fabrice de Pierrebourg sont avec nous ce matin pour commenter évidemment tout ça. Entre-temps, pour ce qui est de la guerre entre Israël et le Hamas, il y a énormément de confrontation entre les Américains et les Israéliens. Deux choses, toujours pas d'accord de cesser le feu et aussi une offensive qui est en préparation pour Rafah. Il y aura des rencontres entre le ministre israélien de la Défense aujourd'hui et des représentants américains. Et l'autre volet qu'il ne faut jamais oublier, c'est tout le côté humanitaire. Donc, la famine qui persiste. Et là, on commence à s'interroger sur le nombre de Palestiniens qui ont été coincés sous des décombres après des bombardements. Il y a eu, tout au cours de la fin de semaine, une série d'opérations militaires. Maintenant, ça fait un an que le fameux chemin Roxham est fermé. Il n'y a plus personne, pratiquement, qui passe à cet endroit. Mais de quelle façon la fermeture du chemin Roxham a modifié le portrait de l'immigration au Canada? Je vous dirais, les gens qui passaient par le chemin Roxham passent maintenant par l'aéroport. Les chiffres que publie Radio-Canada ce matin montrent qu'en février 2023, le point d'entrée terrestre, c'était 4980, mettons 5000 personnes, et c'est tombé à 1500. Et ceux qui arrivent par avion, donc entre autres l'aéroport de Montréal, on parle de 5330 personnes demandent de réfugiés. C'est sûr que depuis un an, on a un débat qui est latent sur l'immigration. Québec qui dit nous recevons trop de demandeurs d'asile. On n'a pas le financement qui est requis. Ottawa prétend qu'il y a beaucoup de gens qui entrent mais qui restent pas longtemps. Il y a une guerre de chiffres. Il y a une guerre de chiffres. On en a déjà parlé. La ministre Christine Fréchette sera avec nous ce matin. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui rentrent ici à Montréal, qui demandent le statut. Certains restent, d'autres préfèrent aller travailler en anglais ailleurs au Canada. Ça, c'est l'élément numéro un. D'autre part, tous les sans-papiers qui sont déjà en territoire canadien, le gouvernement Trudeau avait fait miroiter qu'on pourrait, régulariser leur statut. Ça s'est fait aux États-Unis. Et M. Trudeau, dans le contexte politique actuel, considère que ça ne serait pas une bonne idée. Qu'il y a comme une espèce de vent contre l'immigration massive. Le Canada, qui est un des, deux, trois pays, probablement, qui accueille le plus de gens à travers la planète, là. Nous sommes une terre d'accueil pour des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Donc, il semble que ce projet de régulariser le statut des sans-papiers est mis de côté. Et Mark Miller, qui est le ministre fédéral, qui promet, lui, un espèce de sommet dans quelques semaines sur l'immigration, a décidé de jouer sur le nombre de citoyens qui ont un statut temporaire. Ça comprend des travailleurs, ça comprend des étudiants, et ça comprend des étudiants qui ont aussi le droit de travailler. Pour vous donner juste quelques chiffres, il faut faire attention pour pas inonder de chiffres, là. Mais en 2023, la population canadienne avait augmenté de 1 250 000 personnes, ce qui est énorme, là, en termes de boom. Ce qu'on découvre, c'est que dans la politique fédérale, de vouloir réduire le nombre de gens qui ont un statut temporaire en fonction de la population, ça voudrait dire réduire d'à peu près 20 % le nombre de personnes qui entrent actuellement au Canada, ce qui est quand même pas mal. Alors, on coupe où? Dans le programme d'études, dans le programme de travailleurs temporaires, parce que c'est clair qu'il y a une pression aussi, quand vous avez une immigration aussi forte, sur l'économie, sur la crise du logement, sur le coût des loyers qui flambent encore, là, des augmentations faciles de 8 à 10 % chez des propriétaires qui ont l'air à pas trop gêner pour augmenter les prix parce que la demande est forte puis ils savent très bien qu'ils vont louer. Donc, ça fait pas mal, je dirais, le tour concernant ce volet de l'immigration. Et puis, je vais prendre un moment avant de retrouver Marc pour vous parler des funérailles de Brian Mulroney qui ont eu lieu samedi à Montréal. À la basilique Notre-Dame, j'ai eu le privilège d'être présent et je dois vous dire que les caractéristiques soulevées la semaine dernière se sont fait sentir durant la cérémonie. Quand on parlait de la famille Mulroney qui recevait les condoléances avec beaucoup de classe, beaucoup de dignité, comme le titre, je pense, est Globe and Mail, « Si le Canada a perdu un premier ministre, il y a une famille qui a perdu un père ». Et la cérémonie est extrêmement touchante. Les témoignages de Caroline Mulroney, Jean Charest, Wayne Gretzky, qui est arrivé avec une espèce de touche d'humour également. Et le moment final, quand la petite fille de M. Mulroney s'est avancée pour chanter une des chansons préférées, ou la chanson préférée de son grand-père, Marc Hervieux. Et quand, au final, vous avez la voix de Brian Mulroney qui résonne dans Notre-Dame, c'était vraiment quelque chose. Et le premier ministre Trudeau a prononcé un discours et ça m'a pas mal frappé ce qu'il a dit, parce qu'il donnait l'impression de se parler à lui-même en disant que pour être un premier ministre, puis il citait Brian Mulroney, à qui il parlait de temps à autre, et que Mulroney lui avait dit « Il est important quand on est un premier ministre » d'avoir des valeurs, la valeur du travail, de la gratitude, de la résilience, et qu'il faut pas prendre des décisions pour faire la manchette pendant 10 jours, mais prendre des décisions pour bâtir un Canada meilleur pour les 10 prochaines années. Et M. Trudeau, qui est au bas dans les sondages, qui a beaucoup de difficultés à affirmer son leadership, le Canada n'est plus ce qu'il était sur la scène internationale, surtout quand on compare à l'époque Mulroney. Tu sais, de voir l'hommage rendu par Justin Trudeau qui était sincère, mais qui en même temps, je dirais, montre les faiblesses actuelles du leadership canadien à travers le monde. Bon, l'éclipse solaire, encore une fois, des changements. Si vous êtes parent, je vous invite à vérifier jusqu'à la dernière minute quelle sera la position finale de votre école, qu'elle soit publique ou privée, parce que ça change tout le temps. Je vous donnais des exemples la semaine dernière d'écoles qui ont décidé qu'il n'y aurait pas de journée pédagogique, que les élèves viendraient, mais pour des raisons de sécurité, à cause des assurances, toutes les raisons sont bonnes, là, vont garder enfermés dans des gymnases, dans des classes, les stores fermés, les enfants pendant la période de l'éclipse. Je rappelle que le ministère a suggéré fortement d'encadrer cette activité, que c'est important que des profs accompagnent les élèves dans ça. Et là, la presse ce matin nous dit que malgré cette directive, il y a d'autres directives du ministère qui passent par en arrière puis qui aboutissent dans les écoles. La maison des fous, comme d'habitude. Alors, dans les dernières semaines, on a demandé de mettre en place les conditions pour assurer la sécurité des élèves et du personnel, de pas avoir d'activité extérieure pendant la période de l'éclipse entre 14h et 16h45, et de veiller à ce que l'aménagement des locaux permette d'assurer la sécurité. Il y a des gens à Québec qui ont écrit ça, qui envoient ça dans le réseau. Vous pensez que c'est quoi la réaction des enseignants? C'est aussi bien de fermer la place. Je veux dire, là, on complique encore une fois. Pourtant, ça devrait pas être si compliqué. Peut-être qu'on s'est pris trop tard. T'sais, on savait pas, nous autres, ça a l'air au Québec qu'il y avait une éclipse qui s'en venait. Et je trouve ça bien plate qu'on puisse pas avoir des... Il y en a qui vont le faire, là. Il y en a qui ont pris le temps, puis qui ont le goût, puis qui ont préparé ça, parce que c'est un événement quand même rarissime. Et puisqu'on parle des écoles, un autre exemple du ministère de mon ami Bernard Drainville, qui fait la manchette ce matin dans Le Devoir. Vous avez une école qui s'appelle l'Académie Centennial, qui est une école secondaire qui est installée dans les locaux au Collège de Montréal. C'est une académie privé, subventionné, comme toutes les écoles privées au Québec, à peu près, là, 5 000 $ par élève. Le profil a changé au fil du temps. Et je dis, en fait, je précise, là, que ce sont des enfants qui ont des troubles d'apprentissage, dyslexie, troubles du spectre, de l'autisme, de l'anxiété, des difficultés de langage. Puis au fil des ans, on a accueilli des petits francophones. À un point tel que c'est pas loin de 50-50, là. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de francophones. Eh bien, dans cette école, pour des raisons administratives et bureaucratiques, les élèves anglophones sont subventionnés, mais pas les élèves francophones. Et là, vous lirez Le Devoir pour comprendre le tour de passe-passe, parce qu'on n'accorde pas de nouveaux permis, puis c'est un nouveau statut. On s'en fout, là. On parle de places qui existent pour des enfants qui ont des troubles. Les anglos, on va les subventionner, mais pas les petits francos. Parce que la machine a décidé que ça cadrait pas dans le système puis que ça allait à l'encontre d'une politique historique. D'autre part, petit coup d'œil vers la santé. Vous avez vu en fin de semaine le Journal de Montréal. On le sait là, que les Québécois cherchent des médecins de famille. On le sait que l'attente est longue. Et c'est pas parce que tu es inscrit que tu as nécessairement un rendez-vous. Ce dont je vous ai parlé l'autre jour, que Clic Santé fait la promotion du privé. Clic Santé permet la prise de rendez-vous pour les activités payées par l'État. Mais en même temps, il y a tout un volet privé qui est aussi présenté. Puis là, je le sais, là, on va entrer dans ce débat concernant la place du privé en santé. Mais vous avez des gens qui attendent encore sur des listes pour avoir une chirurgie. Puis vous avez des gens qui attendent, puis qui, à un moment donné, se disent « on n'a pas le choix ». Je me tourne vers le privé, puis je vais payer. Puis là, je sais que les montants varient. Je sais pas comment Québec va faire pour, disons, donner suite à la suggestion de Vincent Marissal, qui est de dire il faudrait mettre des grilles, même dans le privé, dire voici combien vous allez charger. Pas certain que ça peut se faire, mais bon. Puis tu sais, dans beaucoup de pays, ce sont des systèmes complémentaires. Et le point le plus important, quand tu attends une chirurgie, et je répète ça tout le temps parce que c'est ça l'enjeu, puis je sais que il y a beaucoup de philosophes de la santé, beaucoup de gens qui réfléchissent, le privé, le public, surtout en théorie. Ben, en pratique, là, les gens, ils veulent se faire opérer. Public, privé, quand c'est payé par l'État, on s'en fout pas mal. Et est-ce qu'on va voir un nombre important de gens qui sont au privé se tourner vers le public? Il y en aura. Mais est-ce que ça va combler tous les postes? Pas certain de ça. Et puis, rapidement, je vous fais le tour de quelques nouvelles concernant cette enquête dans La Presse au sujet de gens qui ont des problèmes de dépression et qui prennent de la kétamine. Il y a des hôpitaux avec des spécialistes qui vous offrent ce traitement, mais c'est pas pour n'importe qui, c'est pas pour n'importe quelle condition. Sauf qu'en parallèle, vous avez des cliniques qui l'offrent et ça peut représenter des sommes importantes, puis pas toujours avec un résultat probant. Alors, la kétamine, il y a toujours une manchette là, qui fait peur. Là. Matthew Perry en avait consommé, l'acteur américain, puis il en est décédé. Mais c'est vrai que ça peut aider des gens. Les recherches faites à Montréal, entre autres, démontrent qu'il y a un aspect positif. Mais, encore là, il faut que ça soit encadré. Et puis, un mot pour vous dire que Donald Trump, c'est sa journée, parce que, d'abord, il va recevoir une date pour son procès concernant l'argent de poche qu'il a versé à sa petite amie du moment par le biais de son avocat pour une poursuite, donc, d'avoir utilisé des fonds publics, enfin, politiques plutôt, là, de campagne pour acheter le silence d'une jeune femme avec qui il avait une aventure. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, il est supposé déposer ses garanties pour 1,5 milliard parce qu'il y a des jugements prononcés contre lui. Et il a fait le tour. Il y a personne qui veut financer son affaire. Il a décidé d'aller public avec son réseau social. Il peut collecter 3 milliards, sauf que il n'a pas le droit de vendre des actions avant 6 mois, puis il n'a pas le droit non plus de les déposer en garantie. Alors, est-ce qu'il va demander un délai? Comment il va s'arranger? C'est une date fatidique, mais en même temps, il sait très bien que de mettre la main sur ces buildings, de forcer la vente de ces immeubles, par exemple, à New York, ça paraît joli, ça fait très spectaculaire, mais c'est loin d'être simple. Alors, journée quand même importante pour l'ancien président.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Il y a un an, le chemin Roxham était fermé. Évidemment, peu de gens l'empruntent encore et, disons, les déplacements par voie terrestre sont assez rares. La différence, c'est qu'ils arrivent maintenant par avion, on l'a vu dans les derniers mois. On fait le point, donc, sur cette fermeture et sur le portrait global de l'immigration avec la ministre responsable, Christine Fréchette. Madame Fréchette, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Donc, ils viennent moins à pied, mais plus par avion.
Ben, il y a des différences importantes en plus du fait qu'ils arrivent par avion, c'est que ce ne sont pas les mêmes personnes. Les 5 principaux pays de provenance des demandeurs d'asile depuis la fermeture du chemin Roxham ne sont pas les mêmes, sauf pour un seul pays, Haïti. Mais donc, ce ne sont pas les mêmes pays de provenance, ce ne sont pas les mêmes profils non plus.
Mais ils viennent d'où maintenant?
Alors, les 5 pays de provenance maintenant, c'est le Mexique. Mais là, on va voir le Mexique dégringoler parce qu'il y a eu l'imposition du visa. Oui, heureusement. Il y a l'Inde, Haïti, République démocratique du Congo et puis le Sénégal. Mais vraiment, le Mexique trônait au sommet de cette liste-là alors qu'ils arrivaient là avec la volonté de se présenter comme demandeurs d'asile, mais il y en était très peu. Il y avait que 30 % d'entre eux là, qui se qualifiaient comme demandeurs d'asile. Mais une autre chose qui a changé de manière considérable depuis la fin du chemin Roxham, c'est que lorsque le chemin Roxham était le principal point d'arrivée pour les entrées irrégulières, on les recevait presque tous au Canada, on avait 64 % des demandeurs d'asile qui arrivaient au Québec. Maintenant que le chemin Roxham est fermé, on en a 40 %. de ceux qui arrivent au Canada qui viennent au Québec. Donc, c'est une diminution considérable du pourcentage. Certes, le nombre est resté aussi élevé, mais le pourcentage de gens qui viennent au Québec a diminué de 24%. Et heureusement qu'on a fermé les chemins Roxham, parce que je pense que sinon, on en aurait le double. 130 000, 150 000.
Ceux qui arrivent par avion, est-ce que Montréal, là, est-ce que c'est une plaque de transition, une plaque tournante, puis ils s'en vont vers les autres provinces parce qu'entre autres, la langue n'est pas une barrière?
Certains bougent. Est-ce que c'est deux jours après leur arrivée, deux mois après leur arrivée? C'est difficile à savoir. Premièrement, c'est pas le gouvernement du Québec qui a ces données-là. C'est le fédéral et c'est difficile d'obtenir ces données d'une manière rapide. Donc, voilà, ils se déplacent. Certains doivent revenir au Québec s'ils arrivent en Ontario ou l'inverse. Certains doivent rester un certain temps au Québec puis là bénéficient des services publics qui leur sont offerts. Et c'est dans les premières semaines, justement, que c'est le plus demandant pour l'État. Donc, quand on voit qu'ils arrivent en très grand nombre quand même à l'aéroport, Pierre-Elliott Trudeau, en nombre beaucoup plus important que notre poids démographique, plus que le double de notre poids démographique, bien, c'est sûr que ça impose une charge importante, d'autant que la très grande majorité d'entre eux s'installent dans le Grand Montréal. Donc, c'est sur Montréal, principalement, que est effectuée la
pression. Mais certains vous diront que pendant la pandémie, on était content de compter sur eux.
Effectivement. Puis on demeure une terre d'accueil. Puis ça va le demeurer. On est fiers de pouvoir respecter, s'engager dans notre engagement humanitaire. Mais maintenant, malgré tout, l'empathie et la générosité qui nous anime, il y a une limite quant à ce que l'on peut offrir en termes de services, de qualité à des demandeurs d'asile. Et là, c'est quand je dis que la pression est trop forte, c'est qu'ils arrivent en très peu de temps, en trop grand nombre, en un lieu trop restreint.
Là, vous allez ouvrir l'accès au CPE. En tout cas, il y a un jugement qui a été rendu qui permet à ces familles qui arrivent d'avoir accès aux services de garde, comme à l'école, finalement.
Donc, on va respecter le jugement de la Cour, bien entendu. On compte toutefois aller à la Cour suprême pour faire étudier cette cause-là. On a déjà un panier de services très généreux, probablement le plus généreux là au Canada. Donc, c'est sûr que ça crée une pression importante parce que le Québec assume une part disproportionnée des demandeurs d'asile qui viennent au Canada. On le sait, là, pour l'aide de dernier recours, par exemple, c'est maintenant 29 % des prestataires d'aide de dernier recours qui sont des demandeurs d'asile.
Mais si on leur offre le CPE, vous ne pensez pas qu'ils vont se trouver un emploi plus vite?
Bien, c'est sûr que ça pourrait aider certaines personnes à se trouver un emploi. Maintenant, ça reste que notre panier de services fait en sorte que c'est une pression importante sur les contribuables québécois qui est exercée.
Si on regarde le portrait global, il y a votre vis-à-vis fédéral, M. Miller, qui a annoncé deux choses. D'abord, un grand sommet quelque part au mois de mai, et aussi une volonté de réduire les temporaires. Ça veut dire les travailleurs temporaires, les étudiants temporaires, puis les étudiants qui travaillent qui sont temporaires. C'est comme trois catégories.
Et les demandeurs d'asile aussi.
Mais pour ce qui est de la main-d'œuvre temporaire ou les étudiants temporaires, êtes-vous d'accord avec cette cible-là qui ferait en sorte, globalement, elle dit que ça pourrait réduire de 20 % le nombre de temporaires au Canada?
Oui, on est d'accord avec ça. Il y a eu un trop grand nombre de temporaires qui sont venus au Québec au cours des dernières années. C'est assez récent. Là, il y a eu une augmentation quand même considérable. Donc, nous, c'est sûr qu'on dit qu'il faut réduire le nombre de temporaires, les travailleurs temporaires notamment, parce que la capacité d'accueil, particulièrement sur le volet immobilier de l'habitation, donc, est trop à sa limite. Donc, il faut faire en sorte de réduire. Là, on est en train d'analyser, nous autres, différentes actions. Ce qu'on a vu être mis de l'avant par le fédéral, ça nous semble un pas en avant, un pas dans la bonne direction. Donc là, on va voir de manière plus détaillée comment ça pourrait s'appliquer au Québec. Ce que l'on voit jusqu'à maintenant,
c'est que vous voulez moins d'étudiants, moins de travailleurs? C'est quoi le...
Je vous dirais que nos deux premières cibles, c'est beaucoup moins de demandeurs d'asile et moins de travailleurs étrangers temporaires. On n'en est pas encore à vouloir une réduction des étudiants étrangers. Mais de ce côté-là, je pense qu'il y a peut-être une mesure d'autocontrôle qui va être prise par certains établissements d'enseignement, parce que je rencontre régulièrement les recteurs et dirigeants de cégep et on voit qu'il y a de la difficulté à loger les étudiants étrangers. Donc, de ce côté-là, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être des mesures qui seront prises par ces établissements d'enseignement.
À votre connaissance, est-ce qu'en raison de l'augmentation des frais universitaires, par exemple, au collégial, est-ce qu'il y a moins de demandes qu'avant?
Je pense que la demande demeure très forte. Hein. On demeure très attractif au Québec à l'échelle internationale. Et donc, je m'attendrai pas à une diminution du nombre d'étudiants étrangers. Il faut dire qu'on n'en a pas autant non plus qu'en Ontario. Le fédéral a mis maintenant un plafond là, sur les étudiants étrangers. Normalement, ça ne devrait pas générer une baisse pour le Québec.
Pour ce qui est des travailleurs temporaires, là, j'entends le patronat vous dire, là, c'est parce qu'on a encore des postes à combler, on trouve pas la main-d'œuvre, l'industrie de la construction. Bref, un peu partout, on a besoin. Est-ce que vous allez faire mal à la capacité de recrutement des entreprises?
C'est sûr qu'on va freiner un peu la capacité de recrutement des entreprises à l'international. Il faut y aller de manière stratégique, de manière analytique. Faut pas arriver avec une approche qui est mal planifiée. Puis là, on voit avec l'imposition des visas mexicains, là, ça crée des enjeux très importants
dans le monde
sur le
agricole,
secteur des pêches et de l'agriculture potentiellement. Ouais. Donc, on voit bien là, l'importance qu'occupent ces travailleurs-là, puis la nécessité d'y aller de manière planifiée pour éviter qu'on empêche des entreprises
Prenons le monde agricole, là, dans la grande région de Montréal. Tout le monde a ses travailleurs du Mexique, du Guatemala. Bon, c'est... Normalement, le 1er avril, là, dans quelques jours, c'est pas mal la date où ces travailleurs-là arrivent. On dit que dans le cas des Mexicains, ils sont bloqués, ils peuvent pas entrer. Là, il y a une chicane Ottawa-Mexique sur les... Est-ce qu'on donne un visa? Pas de visa? Est-ce qu'on les laisse passer? Il se passe quoi avec ces travailleurs-là?
Là, tout le monde a besoin d'un visa, incluant les travailleurs agricoles, incluant les travailleurs du secteur des pêches. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ces deux secteurs-là, qui effectivement démarrent là, très bientôt, ou c'est déjà démarré, leurs activités saisonnières, il faut qu'ils soient priorisés, puis que ça soit fait de manière expéditive. Donc, on laisse le fédéral là, la solution à mettre en place. Mais nous, c'était pas, quand on demandait la réimposition d'un visa, c'était pas des travailleurs que l'on souhaitait qu'ils soient ciblés, non plus que des étudiants. C'était vraiment des faux demandeurs d'asile, parce qu'il y en avait trop en provenance du Mexique. Donc là, moi, je m'attends à M. Miller, que je vais rencontrer cette semaine, à ce qu'il mette en place une mesure accélérée pour l'émission de ces visas de travailleurs mexicains.
Comment ça se passe, vos relations avec M. Miller?
Eh bien, écoutez, on fait notre bout de chemin. C'est sûr qu'il faut s'adapter. Hein. Moi, j'ai eu un changement d'interlocuteur là, avec le remaniement qu'il y a eu à la fin de l'été. Donc, on s'est parlé régulièrement. Là, on va se voir. Ça va être la première fois qu'on a une rencontre en présentiel, comme on dit, cette semaine. Donc, bien hâte de le rencontrer. On a énormément de dossiers à traiter. Je veux que l'on donne suite aux discussions qu'il y a eu entre nos deux premiers ministres respectifs récemment pour faire en sorte de mettre du concret sur les ouvertures qui ont été affichées par le premier ministre Trudeau. Donc, on a beaucoup de dossiers à gérer.
Bon, cette fameuse rencontre entre M. Trudeau et M. Legault, M. Trudeau a dit non, on donnera pas tous les pouvoirs au Québec en matière d'immigration. M. Legault a dit, avant cette rencontre-là, on a des options, on sait quoi faire. C'est quoi le plan? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là, la réponse est non. Vous n'aurez pas tous les pouvoirs. Donc, vous allez faire quoi?
Bien, on a plusieurs ouvertures qui ont été affichées par M. Trudeau et qui sont les angles sur lesquels on va travailler, puis des gains potentiels. Par exemple, il a été évoqué que le Québec puisse avoir à donner son accord, son autorisation pour des travailleurs étrangers qui viennent via des programmes fédéraux. Ça n'existe pas. Donc, on va travailler sur la concrétisation de cet objectif-là. Il y a également une ouverture pour intégrer des exigences linguistiques dans des programmes d'immigration qui, encore là, relèvent du fédéral. Ça, en fait, il y a déjà un comité de travail qui a été mis sur pied par moi et M. Miller et qui se réunit depuis janvier pour voir de quelle manière on pourrait donc mettre en place des exigences linguistiques pour les travailleurs temporaires. Leur nombre est allé grandissant, donc il faut faire en sorte qu'ils aient un impact positif sur le fait français.
Mais ce que vous me dites,
Québec,
c'est que vous êtes capable de naviguer à travers le système fédéral. Vous n'avez pas besoin de tous les pouvoirs, finalement.
Ah, ben en fait, on peut faire des avancées. Notre objectif ultime, c'est d'avoir l'ensemble des pouvoirs, mais des gains d'ici là, ben c'est sûr qu'on est ouvert. Et c'est sûr sur quoi on va travailler. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu un refus pour le transfert de l'ensemble des pouvoirs en immigration qu'on va s'arrêter là. Au contraire, on a fait des gains déjà importants depuis la fermeture du chemin Roxham. La fermeture du chemin en était un. L'imposition des visas sur les Mexicains en est un autre gain. La rapidité aussi, accélérer l'émission des permis de travail pour les travailleurs qui sont des demandeurs d'asile, ça aussi, ça a été un gain pour
le Québec. La réunification des familles, là. Il arrive quoi? C'est quoi le temps réel d'attente, là, des gens?
Maintenant, on est dans les à peu près 40 mois d'attente. Donc, c'est sûr que c'est un délai très important. On est en train de regarder, voir s'il y a des aménagements qu'on pourrait faire pour faire en sorte d'améliorer la situation dans le respect de nos seuils d'immigration.
Ça, je comprends. Mais en même temps, tu dis quelqu'un dont le conjoint est à l'étranger, par exemple, ils ont un enfant d'un an, ça veut dire qu'il ne verra pas avant que l'enfant se rentre à l'école?
Ben, à voir si nos aménagements pourraient changer la donne. C'est une des choses que ce sont des choses qu'on regarde. Alors, l'heure actuelle. Donc, je peux pas m'avancer d'emblée sur ces éléments-là, mais on est à identifier des aménagements possibles.
Pour accélérer le traitement?
Pour améliorer la situation des personnes qui sont en processus d'attente. Dans le respect de nos seuils d'immigration, parce que vous comprendrez que c'est quelque chose qui a été adopté puis déposé à l'Assemblée nationale. Donc, c'est important pour nous de s'inscrire dans ce cadre-là. Mais je pense qu'il y a des améliorations.
Dernier point. Je recevais la semaine dernière, pardon, une jeune Ukrainienne qui est arrivée ici au tout début de la guerre. Avec elle vit chez sa cousine. Elle apprend très bien le français. Elle va à l'école. Elle a trouvé un emploi. Puis c'est comme si elle tombe en deux chaises des programmes. Elle ne sait pas trop si elle devra quitter. Pourquoi on ne fait pas en sorte de... je dirais, rassurer les gens qui sont déjà ici, qui sont déjà en train de s'intégrer. Tout ce qu'on leur demande, ils le font. Pourquoi vivre avec le spectre de dire, ben, tu pourras pas rester?
J'ai entendu le cas de cette jeune femme. J'étais très touchée. C'est sûr qu'on est très sensible à sa situation. On a pris contact. Je peux pas me prononcer sur ce cas en particulier, mais on a pris contact avec cette personne-là pour l'informer de pistes potentielles d'action qui
lui permettraient... Mais est-ce qu'il y en a des formules pour lui permettre de rester ici?
Ben, nous, on envoie deux, là, des formules. Donc, je vais laisser le ministère là, poursuivre les démarches pour faire en sorte de voir si c'est possible pour elle de s'inscrire dans ces cheminements-là que nous, on a ciblés. C'est sûr que le fédéral aussi a sa part de responsabilité là-dedans, mais je pense qu'il y a des options potentielles pour cette dame.
Merci d'être venue ce matin.
Merci à vous.
Christine Fréchette est la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Alors, 7h47, donc on revient ce matin sur l'attentat terroriste en Russie. Je rappelle le bilan, plus de 137 morts, 4 suspects qui ont été accusés. Ça a été revendiqué par l'État islamique, mais Vladimir Poutine, lui, pointe vers l'Ukraine. Ce matin, le président français Emmanuel Macron a dit que ce groupe, cette partie de l'État islamique avait déjà planifié des attentats pour la France. Fabrice de Pierrebourg est avec nous. D'abord, qui sont ces gens? Ils représentent quelle faction au sein de l'État islamique?
Alors Paul, moi, si on peut résumer ça, on dirait que l'État islamique, sa branche Khorasan, c'est un peu l'enfant turbulent et qui a été longtemps ignoré dans toute la fratrie de l'État islamique. Et ça a été vraiment une menace qui monte tranquillement, mais qui est ignorée depuis plusieurs années. C'est un groupe, c'est une franchise qui est apparue à la fin de 2014 au nord-est de l'Afghanistan, dans la province du Nangarhar. C'est une province assez montagneuse, qui a toujours été un terreau fertile et une plante pour beaucoup de groupes et de factions djihadistes. Et au départ, ça regroupait beaucoup de commandants talibans, afghans et pakistanais, qui étaient un peu déçus, aussi des membres de tribus locales, de petits groupes djihadistes. Et quand l'État islamique était à sa pleine puissance à ce moment-là, ils ont prêté allégeance au groupe État islamique, ils sont devenus donc ce qu'on appelle une franchise du groupe État islamique, puis ils ont pris ce nom de Khorasan. Pendant plusieurs années, je dirais qu'ils se sont surtout attaqués aux talibans locaux, donc ça a été une insurrection qui se battait contre une autre insurrection. Ils ont aussi affronté la coalition internationale, plus précisément les Américains, et quand même, ils sont restés très locaux au départ, avec quand même des attentats dans les pays périphériques, que ce soit le Pakistan, le Tadjikistan, dont on va reparler. Mais on va dire que la seconde étape de leur ascension, ça a vraiment été la chute du gouvernement afghan, la débâcle occidentale en Afghanistan au cours de l'été 2021. On se souviendra, les talibans reprennent le pouvoir. Et une des conséquences, ça a été que non seulement les troupes étrangères militaires sont parties, mais aussi tout l'appareil du renseignement. C'est-à-dire que, entre autres, la CIA, toutes ces agences occidentales antiterroristes, qui avaient pied en Afghanistan, ont été obligés de quitter. Et là, ce groupe-là, on a profité finalement pour reprendre l'avantage, multiplier les attentats. On se souviendra d'ailleurs dans les derniers jours du départ des troupes américaines et occidentales, cet attentat énorme que le Khorasan avait fait à l'aéroport de Kaboul. Il y avait eu plus d'une centaine de morts. Et à partir de ce moment-là, ils ont profité vraiment de ce vide sécuritaire, même si les talibans continuent de lutter contre eux, ont éliminé plusieurs de leurs chefs. Et là, ils ont atteint un nouveau stade qui est celui qui est le plus dangereux maintenant, je dirais, c'est qu'on sait qu'ils sont capables de se projeter hors de leur territoire, c'est le territoire de l'Asie centrale, le Caucase, etc., pour mener des attaques en Occident. Et ça, ça préoccupait déjà beaucoup les services de lutte au terrorisme occidentaux. Il y a eu plusieurs rapports, entre autres, du Conseil de sécurité de l'ONU qui disaient « Attention, attention, l'EI Khorasan, c'est la branche montante. Le groupe État islamique central, celui qui est à l'origine de ce groupe-là, donc syro-irakien, lui, on sait, il végète en ce moment en Syrie, en Irak. Il y a quand même 5000 combattants djihadistes qui sont en prison en Syrie. Ça, c'est comme une bombe à retardement. Mais c'est eux qui finalement ont pris l'avantage. Et on voit... Ils ont aussi collecté des fonds. On dit qu'ils ont collecté au cours des derniers mois près de 2 millions de dollars américains pour pouvoir recruter des combattants étrangers. Et surtout...
Mais la question que les gens vont se poser, c'est pourquoi la Russie, finalement, on comprend l'affrontement avec les talibans, là, plus radicaux que les talibans, mais pourquoi ce groupe, ce commando débarque, fait un attentat qui, veut pas, nous rappelle le Bataclan. Donc, on vise une salle de spectacle, oh oui. C'est bondé et ça fait... presque 150 morts.
La Russie, moi j'ai vu des messages et des gens qui m'ont interpellé sur les réseaux sociaux en disant, ben voyons donc, pourquoi l'État islamique s'attaquerait à la Russie? La Russie est derrière le Hamas et soutient le mouvement islamiste. Ce qu'on oublie là, c'est que le groupe État islamique lui est ennemi entre autres avec le Hamas. Ce sont deux entités qui se sont fait la guerre en 2015-2016 dans la bande de Gaza. L'État islamique en veut à la Russie parce que la Russie a été entre autres le supporter, a fourni une grosse aide à Bachar al-Assad en Syrie pour lutter contre le groupe armé État islamique. La Russie est présente en Afrique à travers le groupe Wagner pour lutter aussi contre le groupe la branche saharienne du groupe État islamique. Et surtout, c'est la Russie est alliée, fait partie de cet axe, un peu ce qu'on appelle l'axe de la résistance iranien, les chiites, qui regroupe le Hezbollah libanais, qui regroupe les Houthis. Donc, et ça, c'est les ennemis intimes. Et ils sont derrière aussi le gouvernement taliban en Afghanistan. Et c'est les ennemis intimes de la Russie. Parce que l'État islamique considère que tous ces groupes-là, en fait, sont des dévoyés, ne mènent pas le vrai djihad. Du fait qu'ils rentrent dans un système, on va dire, politique. Le Hamas, malgré tout, c'est un système politique. Ils font des négociations avec l'Occident. Les talibans ont négocié avec les Occidentaux pour revenir au pouvoir. Ce sont donc des gens qui méritent d'être combattus.
Mais ça prouve, Fabrice, que parfois on dit, ben ça y est, l'État islamique a été neutralisé, ce n'est plus ce que c'était, mais il y a toujours des groupes, des factions qui sont dans le décor et peut-être qu'on néglige d'observer de plus près.
Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a 5 ans exactement hier, le groupe État islamique perdait le dernier carré de son territoire à Barouz en Syrie. Tu te souviens, on avait fait un reportage à l'époque. Et on se souviendra qu'à l'époque, beaucoup de gens avaient dit, ça y est, le groupe État islamique est défait. Parce qu'on a cette fâcheuse tendance à considérer que quand un groupe avec une idéologie djihadiste, révolutionnaire, perd son territoire ou est défait par les bombes, son idéologie est défaite elle-même, ce qui est totalement faux. Et c'est l'erreur que d'ailleurs Netanyahou est en train de faire et de persister à Gaza en disant « je vais éradiquer le Hamas ». Peut-être qu'il va éradiquer le territoire du Hamas, il va éradiquer la bande de Gaza, mais l'idéologie du Hamas va rester. Ce matin, le président Macron a dit qu'il y a eu plusieurs attentats que l'on dit reliés au groupe État islamique branche Khorasan qui ont été déjoués au cours des derniers mois en France. J'ai trouvé un chiffre, là, il y a eu 43 attentats islamistes qui ont été déjoués en France entre 2019 et 2023. Ça en fait un tous les mois et demi. Les services de renseignement disent qu'ils ont à peu près chaque année 6000 personnes sur le radar de renseignement à surveiller. Au cours des derniers mois, j'ai retrouvé, hormis des attentats en Iran, qui meurtriers de l'État islamique, il y a eu des complots qui ont été démantelés en Allemagne. Encore ces derniers jours, ça impliquait des membres des Tadjiks, membres présumés de l'État islamique, qui voulaient faire un attentat contre le Parlement en Suède. Il y a eu un autre groupe démantelé en Allemagne il y a plusieurs mois qui, eux, voulaient prendre des cibles en Espagne. Donc on voit que clairement... La menace est en train de remonter en Europe et c'est très inquiétant effectivement. Puis la patronne de la sécurité intérieure française a reconnu à quelques mois des Jeux olympiques.
Exact. Jean-François Lépine est avec nous. Bonjour Jean-François. Bon, ça n'a pas pris le temps que Vladimir Poutine tout de suite a dit qu'il faut regarder du côté de l'Ukraine pour comprendre ce qui s'est passé.
Ben c'est ça qui est inouï parce que pendant qu'on parle de l'État islamique, tout ce que Fabrice vient de nous dire de super intéressant, il y a une négation complète de la part du président Poutine qui a même pas mentionné ce groupe-là dans le peu d'interventions ou la seule intervention qu'il a faite. Mais par contre, dans la société... J'entendais des reportages de journalistes sur place dans la société. Les Russes y croient à l'hypothèse de l'État islamique. Eux le savent pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Le problème pour Poutine, c'est que cet attentat-là mine en tout cas beaucoup sa crédibilité et surtout celle des services de renseignement russes, le FSB, entre autres, parce que on le sait, les Américains le disent, en tout cas. Dans tout ça, évidemment, il y a beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup de conditionnels et tout ça, mais les Américains disent que dès le 7 mars dernier, ils ont donné des indications extrêmement claires aux services de renseignement russes. Alors, que s'est-il passé? Donc, pour Poutine, c'est un problème. Sauf qu'il est très habile, dans ces occasions-là, d'utiliser ce qui se passe, mais pour ses propres objectifs. C'est pour ça que, évidemment, on lance toute l'hypothèse là de l'Ukraine. Il y a des médias qui disent que ces gens-là qui ont été arrêtés auraient été engagés par l'ambassade d'Ukraine au Tadjikistan. Il y a toutes sortes d'hypothèses de ce type-là. Eux-mêmes auraient dit, en tout cas les quatre qui ont comparu et qui ont été accusés hier, qu'ils avaient reçu de l'argent. Ils ont parlé même de montants et tout ça. Donc ça, toute cette question-là va être une question vraiment importante à suivre au cours des prochaines semaines. Mais est-ce qu'on saura un jour vraiment tout ce qui s'est passé? On sait qu'un des quatre était un Tadjik, mais quand on voit la consonance de leur nom, les autres sont probablement un peu, en tout cas certainement, un lien avec l'islam. Qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, on l'a vu, le président Zelensky a dit « Attention, là, on commence pas ce jeu-là ». Parce que, évidemment, c'est extrêmement dangereux pour l'Ukraine. Il y a des hypothèses qui disent que Poutine veut se servir de ça comme il se sert d'autres choses pour lancer cette fameuse campagne de mobilisation générale, cette deuxième campagne qu'il voudrait lancer au cours des prochains mois. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'effectifs? Parce qu'on dit que les effectifs, il y a un roulement au sein des effectifs russes sur le front. Est-ce qu'il a vraiment besoin de mobilisation? On parle aussi d'une mobilisation qui serait un peu différente. Au lieu d'aller chercher chez les gens, au sein de la population, on convaincrait plutôt, on mobiliserait des policiers ou des agents de sécurité qui ont déjà une relative formation militaire ou en tout cas sécuritaire pour alimenter les troupes. Mais c'est sûr que c'est une question qui ne, cet attentat-là n'augure rien de bon pour le conflit comme tel. On l'a vu en fin de semaine, un nombre record d'attaques de la part des Russes sur, évidemment, les toujours comme on essaie de le faire par période, sur les infrastructures de production d'énergie. Et puis l'Ukraine qui, en revanche, revendique une attaque contre deux navires barges de débarquement dans le port de Sébastopol, en Crimée. Donc, c'est ça. Ça n'augure rien de bon pour le conflit et c'est un drame pour les Russes.
Parlons de la situation à Gaza maintenant. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui s'est rendu à la frontière sud de Gaza dimanche, tout près de Rafah. Rafah, c'est la ville qui est ciblée par le gouvernement israélien. Et il y a à la fois tout le volet militaire de négociations d'accord sur cessez-le-feu. Mais pour l'instant, là, la famine persiste et il y a toujours des combats.
Ben, c'est pour ça qu'il était là principalement. On l'a vu, il y avait une espèce de tribune qui avait été placée devant la porte sud de Rafah du côté égyptien. Il y a l'ONU l'a évoqué en fin de semaine, j'en ai parlé vendredi. Il y aurait 7000 camions en attente à partir de Al-Arish, qui est la ville où toute l'aide arrive en Égypte, vers et qui est à 70 kilomètres environ de Rafah. Donc, le secrétaire général, encore une fois, a parlé de la famine, a demandé à Israël de laisser passer l'aide, de cesser ces contrôles tatillons qui prennent, on l'a dit vendredi, des semaines avant qu'un camion puisse entrer. C'est extrêmement grave. Il a dit il faut inonder Gaza d'aide humanitaire et tout faire pour qu'il y ait un cessez-le-feu, pour que la population récupère. C'est l'enjeu de toute cette histoire-là. Au même moment, en fin de semaine, c'est des choses qui sont, encore une fois, je répète tout le temps que c'est très difficile de savoir sur place quelle est la réalité exacte, parce qu'on peut pas entrer, parce que ce qu'on a comme reportage, ce sont les gens de l'intérieur qui ont leurs enjeux eux-mêmes. Mais l'UNRWA, cette fameuse agence des Nations Unies, là, qui est encore boycottée par les États-Unis, l'UNRWA qui s'occupe des réfugiés palestiniens depuis 1949, l'UNRWA à Gaza a dit formellement que l'armée israélienne interdisait à l'UNRWA dorénavant d'envoyer des convois d'aide humanitaire vers le nord. C'est extrêmement grave. Déjà, c'était difficile d'envoyer des convois parce qu'il n'y a pas d'ordre public. Les gens se ruent sur les convois. Il y a des questions de sécurité pour la population autant que pour les travailleurs humanitaires. Mais là, il y aurait interdiction. Et ce qui est inouï, parce que tu parlais, Fabrice parlait de la résilience de mouvements comme l'État islamique et tu as évoqué la résilience du Hamas. Là, on le voit avec la fameuse attaque contre l'hôpital Al-Shifa au sein de la ville de Gaza, dans le nord du pays. On prenait pour acquis qu'il y avait eu une éradication du Hamas dans le nord du pays. La priorité, c'était l'aide humanitaire à ceux qui sont restés, 200, 250 000 personnes qui n'ont plus rien, tout a été détruit. Ben là, on s'aperçoit qu'il y a une résurgence. Là, les Israéliens disent, ils utilisent à nouveau la structure hospitalière pour camoufler des cadres supérieurs des milices du Hamas. Et là, on s'attaque aujourd'hui, au moment où on se parle, à deux hôpitaux dans la ville de Khan Younis, qui est une grande ville du centre sud de la bande de Gaza. Donc, on voit que ce qu'on disait depuis le début, là, entrer à Gaza pour éradiquer le Hamas, c'est une opération extrêmement complexe, Paul. Et on le voit que les Israéliens, malgré toute la destruction, là, tout ce qui s'est passé, tous ces réfugiés qui sont dans le sud, tous les déplacements de population, la cruauté de cette offensive-là, parce qu'elle est très dure pour la population civile de Gaza, malgré tout ça, il y a un problème. Le Hamas réussit à continuer à survivre. Alors, c'est un enjeu très important de la situation.
En terminant, tu nous disais vendredi, surveillons ce qui se passe au Sénégal pour l'élection. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat?
Ben, au moment où on se parle aujourd'hui, là, il y a une avance étonnante dans les résultats que l'on connaît. Mais là aussi, il y a une grande question là, des résultats. Il faut surveiller ça parce que ça va durer toute la semaine avant qu'on ait un résultat qui doit être confirmé ultimement par le Conseil constitutionnel. Cette instance qui a justement renversé la décision du président et forcé la tenue d'élections alors que le président voulait reporter les élections. Mais on comprend peut-être mieux pourquoi Macky Sall voulait reporter ces élections-là. Son candidat favori, M. Ba, qui est l'ancien premier ministre, un homme respectable. On le voit, il est en arrière dans les résultats pour l'instant. Il ne veut pas reconnaître sa défaite. Il évoque la possibilité encore pas claire qu'il y ait même un deuxième tour. Dans le cas d'un deuxième tour, là, il peut y avoir beaucoup de manipulation. Mais le phénomène qui est étonnant dans ce qui se passe actuellement, c'est que si Diomaye Faye, qui est le candidat de l'opposition, un jeune homme dans la quarantaine, d'origine modeste, un personnage qui a fait les grandes écoles du pays, mais qui est considéré comme un candidat du peuple, hein, originaire, un peu comme celui qu'il remplace comme suppléant, parce que c'est ça qui est étonnant. Le candidat, donc, Faye, a été officiellement déclaré candidat le 15 mars. On voit que... Pourquoi? Parce qu'il ne devait pas y avoir d'élection tout de suite. Donc, il est devenu candidat, mais on sait très bien qu'il est candidat suppléant pour un personnage très important au Sénégal qui s'appelle Ousmane Sonko. Même type d'individu, jeune, relativement jeune. C'est des gens qui représentent une nouvelle tendance, un ras-le-bol contre la classe politique traditionnelle. Et c'est ça qui est le phénomène.
Ce qu'on voit dans d'autres pays aussi.
Exactement.
De plus en plus,
qui se manifeste sous toutes sortes de formes. Au Mali, voisin, c'est un coup d'État, c'est l'armée. Mais là, c'est vraiment quand on parle de la démocratie sénégalaise, là, il y a quelque chose qui se passe d'assez intéressant. On appelle ça une sorte de gauche panafricaine, mais c'est des gens qui disent, là, c'est assez la corruption des élites, c'est assez le contrôle étranger de nos ressources naturelles. Projet de ce groupe-là de renégocier les contrats miniers, entre autres. Le Sénégal est un pays riche en minerais, mais tout s'en va à l'étranger. C'est un type d'exploitation assez primitive et tout ça. Et donc, la grande question... C'est comment est-ce qu'il y aura une tentative de manipuler les résultats au cours de la semaine? Un gros défi, on va voir ce qui va se passer. Mais aussi, Ousmane Sonko, qui n'était pas candidat parce qu'il y a des affaires judiciaires encore en jeu, quelle va être sa relation avec Diomaye Faye, qui serait élu et qui est son suppléant? Est-ce qu'il va vouloir, lui, reprendre le pouvoir d'une façon ou d'une autre ou assumer le pouvoir, quelle sera la relation entre ces deux personnages-là? C'est une situation pour les maniaques de politique, c'est vraiment intéressant. C'est un pays extrêmement important en Afrique de l'Ouest. Alors, ça va être à surveiller.
Merci, Jean-François.
Merci.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Parlons de santé. Un peu toujours les mêmes questions. J'espère qu'il y aura des réponses éclairantes et rafraîchissantes parce que vous avez vu sans doute ce dossier dans le Journal de Montréal en fin de semaine où on apprend que les Québécois cherchent encore un médecin de famille. Ce matin, on nous parle de quoi? Un nombre record qui se sont inscrits strictement pour le mois de janvier. Vous savez aussi que d'être inscrit, ça ne garantit pas la possibilité de voir votre médecin. Et en même temps, on manque de médecins. Puis la médecine familiale est pas très populaire. Faisons le point avec le docteur Marc-André Amiot, qui est président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Docteur Amiot, bonjour.
Bonjour.
Vous n'êtes pas surpris des chiffres, évidemment. Ça veut dire qu'il y a encore autant de Québécois qui cherchent un médecin.
Oui, et il y en a quand même 6,1 millions qui sont inscrits individuellement. Et dans les deux dernières années, on a pris, malgré une diminution des effectifs en médecine familiale, hein, je vous rappelle, on est à moins 48 médecins de famille cette année par rapport à l'année passée, et des médecins qui font de la prise en charge, là, il y en a moins 100 par rapport à avant la pandémie. Et malgré ça, on a pris 930 000 patients inscrits collectivement. Donc, il y a des efforts très importants qui sont faits pour donner des services à la population, mais force est de constater que on a pris un retard là par une difficulté de bien planifier les effectifs dans les dernières années.
OK, juste comprendre, quand vous dites mal planifier les effectifs, ça veut dire quoi? Pas assez d'inscriptions en médecine?
Pas assez d'inscriptions, pas assez de médecins de famille. Vous savez, quand les étudiants finissent leur pré-doctoral, leur université, ils ont le choix de choisir entre une spécialisation en médecine familiale ou une autre spécialité. Et ça, pendant des années, on a mis l'accent sur les autres spécialités par rapport à la médecine familiale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve en effectif à près de 1100 médecins de famille de moins que des spécialistes. Alors que partout ailleurs au Canada, on est à peu près dans un ratio de 50-50. Et on sait que une première ligne forte, ça diminue les visites à l'urgence, ça diminue les hospitalisations. Les populations ont des meilleurs déterminants de santé quand on a une première ligne forte. Donc ça, on a, jusqu'à un certain point, échoué dans cette planification des effectifs-là. Heureusement, le gouvernement a augmenté le nombre d'admissions en médecine. Bravo, on le félicite. Pardon. Et on demandait ça depuis des années. Malheureusement, comme vous l'avez souligné, ils ne choisissent pas les étudiants. Encore la semaine dernière, on a eu l'exemple. Ils ne choisissent pas la médecine familiale.
Mais pourquoi les autres choisissent à 50-50? Qu'est-ce qui fait que au Québec, c'est pas tentant d'être médecin de famille?
Ben, deux choses. On a, pendant plusieurs années, on avait un ratio de postes offerts. 55% des postes offerts de formation en résidence étaient de la médecine spécialisée, 45% de la médecine familiale. On a inversé ce ratio-là depuis plusieurs années, mais là, on a un déficit d'attractivité. Puis depuis plusieurs années, les étudiants boudent la médecine familiale. À chaque année, là, il y a 50 à 60 étudiants qui, plutôt que de mettre la médecine familiale comme deuxième choix quand ils sont pas pris dans une autre spécialité, préfère prendre une année sabbatique. C'est vous démontrer à quel point la médecine familiale est devenue non attractive.
Mais, docteur Amiot, je comprends qu'il y a des gens, là, presque 1 million qui ont été inscrits et tout ça, là. Mais ce que les auditeurs me disent, là, de leur expérience, c'est pas parce que t'es inscrit que t'obtiens un rendez-vous nécessairement. Que parfois, c'est plus que long. Et même si c'est pas toujours d'une urgence nationale, là, t'sais, ils vont aller quelque part à l'urgence parce qu'ils sont pas capables d'avoir un rendez-vous avec un GMF, par exemple?
Ça, c'est une réalité. Il y en a un certain nombre là, où ça va très bien. Il y en a un certain nombre, puis ça, ces gens-là, ils vous écrivent pour dire « j'ai de la difficulté à voir mon médecin de famille ». Puis il y a tous les patients là actuellement qui n'ont pas de médecin de famille qui disent « j'aimerais bien ça en avoir un ». Il faut changer peut-être un petit peu notre façon de voir les choses, puis je vous explique. Là. Pendant des années, et je l'ai défendu sur ce concept-là, le médecin de famille, la porte d'entrée du réseau de la santé. Mais on n'est plus là maintenant, là. Compte tenu de la pénurie d'effectifs, compte tenu de l'accroissement de la population québécoise, du vieillissement, de l'alourdissement, les patients sont plus malades, on les traite mieux, on les traite pour leur cancer, on les traite pour leur maladie cardiaque. Donc, ils vivent plus vieux avec plusieurs maladies.
OK, mais elle est où la porte d'entrée du réseau de la santé? J'aimerais ça le savoir.
Oui, bon, la porte d'entrée, là, il faut que ça soit d'autres professionnels. Il faut réserver aux médecins de famille que ce qui nécessite l'expertise du médecin de famille. Est-ce que votre pharmacien peut régler le problème? Le physiothérapeute, la nutritionniste peut régler votre problème? C'est pas, il faut changer la mentalité. J'ai un problème, je vais appeler mon médecin de famille. Puis je comprends, là, on a fait ça pendant des années. Puis
en mais comment temps, je fais comme patient pour savoir si c'est un physio, un nutritionniste, tu sais? Comment je fais pour déterminer qui je dois voir en premier?
Bon. Pour les patients qui n'ont pas de médecin de famille ou qui sont inscrits collectivement, on a mis en place le GAP, le guichet d'accès à première ligne. Là, c'est pas parfait, là. Puis il y a des files d'attente au GAP, puis parfois, ça prend plusieurs jours avant que le GAP rappelle les patients. Mais ça, c'est une façon. Il y a un triage qui est effectué par une infirmière qui évalue votre problématique, puis qui dit, ben, on peut vous référer, par exemple, si je suis une femme, j'ai pas vu de médecin depuis des années, j'ai besoin d'un examen là pour la santé de la femme avec un pap test, etc. Ben, on a développé, par exemple, au CLSC, un programme où c'est pas nécessairement le médecin qui va vous voir, là, ça va être l'infirmière, elle va faire vos examens. Même chose pour des programmes de dépistage nationaux. Programmes de dépistage nationaux du cancer du sein, du cancer du colon, salon, par exemple. Exactement. Alors ça, c'est des programmes qui font en sorte que
mais est-ce que ça marche? Ma question, là, je comprends que ça existe, mais est-ce que ça existe en nombre suffisant pour faire une différence ou ça se place bien dans une conversation, mais dans les faits, les gens attendent pareil, c'est soit le médecin de famille ou ben non l'urgence?
Ben, ça marche pas comme ça devrait marcher. Je vais être honnête avec vous. Il faut travailler pour que ça marche mieux, là. Ça, c'est clair. Puis ça se fait dans un climat de collaboration avec le gouvernement. On l'a démontré, là, le GAP, il n'y avait rien avant pour ces patients-là. C'était le parcours du combattant.
OK. Bon. J'ai une autre question. J'ai une autre question. Est-ce que c'est vrai que vos membres prennent leur retraite de plus en plus jeunes?
C'est un constat qu'on fait. L'alourdissement, la pression qu'on met, les difficultés, là, puis ce que ça fait aussi, là, quand les jeunes étudiants viennent faire des stages, ils voient l'ampleur de la tâche, ils voient la lourdeur de la pratique, puis ça les décourage, mais ça décourage aussi nos médecins plus âgés qui, maintenant, là, ne prennent plus leur retraite à 65, 70 ans. Je vous rappelle, il y a encore 25 % des médecins de famille au Québec qui ont plus de 60 ans, donc ils prennent pas toute leur retraite
plus
jeune.
Non, mais il y en a pas mal qui partent plus vite qu'on pensait.
Oui, tout à fait.
OK. Merci d'avoir été avec nous, Dr. Amiot.
Ça me fait plaisir.
Au revoir, Dr. Marc-André Amiot, est le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Maintenant, il y a un dossier dans la presse ce matin concernant le traitement avec de la kétamine pour les gens qui ont des problèmes de dépression, d'idées sombres. Là, il y a tout un enjeu. C'est utile pour quel type de patient, pour régler quel genre de problème, que font ces cliniques qui se sont glisser dans le décor de tout ça. Docteur Paul L'Espérance est avec nous. Il est psychiatre et chercheur, directeur de la clinique, justement, de neuromodulation au CHUM, ce qui inclut les services de traitement de kétamine. Docteur L'Espérance, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arquin.
D'abord, on va donner un cours 101 de kétamine, là. Qu'est-ce que c'est exactement et on l'utilise dans quel cadre?
En fait, c'est une molécule qui existe depuis plus de 40 ans. Là, c'est un anesthésique, une molécule qu'on utilise pour l'anesthésie générale de longue date, de moins en moins utilisée, puis qui a toutes sortes de propriétés à des doses qui seraient sub-anesthésiques, si vous voulez, des petites doses, à la fois pour le contrôle de la douleur, c'est souvent utilisé dans les cliniques de la douleur, mais depuis le début des années 2000, il y a eu une série d'études qui avaient démontré le potentiel pour la dépression très résistante au traitement usuel, donc pour la dépression dite réfractaire. Et on sait ça, ça fait une vingtaine d'années en fait que ces données-là s'accumulent. Et puis tranquillement, les sociétés savantes ont commencé à faire des recommandations de le considérer dans les cas de dépression très réfractaire. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître depuis le milieu des années, surtout depuis 2015 et plus, là, des recommandations, puis des cliniques ou dans les hôpitaux, ou évidemment aussi des cliniques privées qui commencent à offrir ce type d'intervention.
OK. Est-ce que la kétamine peut être prescrite à quelqu'un qui, par exemple, souffre d'une dépression, mais qui n'est pas là, quelqu'un qui, comme vous dites, réfractaire, là, qui ne trouve pas la issue, là, mais quelqu'un qui, pour une raison précise, arrive à un moment dans sa vie où il sombre en burn-out, en dépression? Est-ce que ça, c'est indiqué dans un contexte comme celui-là?
Mais encore une fois, les recommandations et les données sont pour les dépressions réfractaires. Donc, compte tenu finalement que d'autres types d'interventions qui fonctionnent bien pour les dépressions non réfractaires, par exemple pour les burn-out, la psychothérapie, peut-être un antidépresseur standard ajouté, d'aller vers des interventions qui sont plus complexes puis qui peuvent avoir des effets secondaires ou sinon des complications, mais des choses à gérer, c'est pas recommandé, non.
OK. Vous avez vu les cas dans la presse ce matin de gens qui ont reçu de la kétamine et pour qui les effets secondaires ont été terribles. Pourriez-vous m'expliquer ça? Pourquoi, dans des cas, c'est l'effet inverse qu'on semble provoquer?
En fait, c'est tout à voir avec la kétamine, comme beaucoup d'autres interventions pour les situations réfractaires, c'est un instrument qui peut être très intéressant, très utile, mais qui a aussi ses risques associés. Et donc, la sélection des patients, mon opinion est très importante. Il faut s'assurer que les patients comprennent bien que les autres choses n'ont pas fonctionné et les risques. Mais un patient qui a tout a été essayé et puis qui est encore très déprimé, découragé, désespoir, il y a peut-être un niveau de risque qui est acceptable, mais aussi il y a des précautions à prendre. Puis éventuellement, si ça arrive, on va suivre les patients, puis on va s'assurer de minimiser les risques. Néanmoins, le patient est rendu dans sa trajectoire à un moment où le risque vaut la peine. Mais quand on est dans des situations où les interventions usuelles qui fonctionnent bien n'ont pas été essayées, là, ça peut poser un problème.
C'est parce que on parle d'une quinzaine de cliniques privées au Québec et en Ontario. Là, vous me parlez d'un protocole. Voici les critères pour lesquels on doit utiliser la kétamine. Mais quand on se retrouve dans des cliniques avec des traitements qui représentent plusieurs milliers de dollars, je lis ça ce matin et j'ai l'impression que je pense pas qu'on refuse beaucoup de patients qui sont prêts à payer.
Ben écoutez, ça, je pense qu'il va falloir leur demander, puis c'est évidemment une des préoccupations qu'on peut avoir. Je pense que ce qui est important, peu importe où les patients vont recevoir des traitements, c'est vrai aussi pour les cliniques hospitalières qui sont en développement, c'est de s'assurer de suivre une trajectoire, un protocole très clair. Pourquoi on le donne chez ces patients-là? Pourquoi on refuserait aussi? Quel patient on dirait peut-être inquiet que on n'est pas rendu là ou que les effets secondaires seraient peut-être plus importants chez ces patients? Par exemple, ceux qui ont vécu des grands traumatismes, ça peut être très utile, mais il y a peut-être un peu plus de risques, hein, donc des traumatismes plus récents ou anciens. Donc, il faut y aller avec parcimonie, mais pas nécessairement s'empêcher d'offrir des traitements qui peuvent avoir un impact majeur, mais c'est là qu'est la difficulté. Ça prend beaucoup de travail en amont, hein, et c'est peut-être pas toujours compatible avec des cliniques ou une volumétrie, une clinique privée où il faudrait donc une préparation, une compréhension puis une connaissance du patient qui nous porte vers la prudence d'une certaine façon.
C'est parce que
je suis convaincu que ces cliniques-là traitent beaucoup de gens avec qui ont eu des bénéfices, mais évidemment avec une volumétrie puis si on n'a pas donc un parcours vraiment de résistante qu'on a bien sélectionné, ben il y a plus de risque d'avoir des patients qui finalement n'auraient pas dû avoir ce traitement-là.
Parce que vous et moi, on en parle ce matin, les gens vous écoutent, mais en même temps, le mot kétamine va se promener sur les réseaux sociaux, va se promener sur le web. Les gens feront pas la nuance, ça devient extrêmement populaire. Puis vous, j'imagine, vous dites à un patient ou une patiente, c'est pas ça qu'il vous faut. Son premier réflexe, ça va dire oui, c'est ça que je veux.
Et effectivement, ça nous arrive assez fréquemment parce que ça fait déjà un petit bout de temps que la kétamine est présente dans les médias sociaux. On entend parler des gens comme Elon Musk là, qui en ont eu pour apparemment dépression réfractaire, ça reste à voir, mais il reste que Donc, les gens entendent ça et ben, c'est notre rôle d'expliquer, ben écoutez, nous, par exemple, on a une clinique de neurostimulation. On va dire, ben, on va d'abord essayer de la stimulation transcrânienne qui dure plus longtemps et on verra après, est-ce que si ça marche pas, on peut vous offrir quelque chose d'autre qui peut inclure la kétamine ou pas. Ça va être la même chose okay. pour les psychédéliques à venir, là, hein, la psilocybine. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt, il y a vraiment un grand intérêt pour ces nouvelles avenues thérapeutiques. Mais le risque, c'est qu'on va faire un peu n'importe quoi et finalement, on va empêcher des gens qui pourraient en bénéficier de vraiment se sentir confortable à le faire puis de pas se sentir à risque. Donc, à chaque fois qu'il y a des effets de mode, c'est dommage parce que la kétamine a vraiment un potentiel intéressant, mais ce genre d'utilisation à trop grande échelle pose un certain nombre de questions, effectivement, puis des risques, selon moi.
Merci beaucoup, Dr. Espérance. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir, Dr. Paul Espérance, est psychiatre et chercheur, directeur de la clinique de neuromodulation.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.